Et au menu de notre club cet après-midi, le business des conférences scientifiques, un site internet sur la dyspraxie, un dictionnaire des lieux urbains. Je vous présente mes invités dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Et bonjour.
Et des bulles géantes aujourd'hui à la surface d'une étoile. Aujourd'hui, ce sera donc à la une de la science dans un instant.
Oui, une étoile qui nous montre à quoi ressemblera notre soleil dans ses vieux jours, énorme et boursouflé. Mmh. On en discute avec le planétologue Jean-Philippe Berger.
Et c'est Fanny Boyon qui réalise ce club préparé aujourd'hui par Thomas Kalevitch.
La tête au carré. Le club. Avec Mathieu Vidard. Sur France Inter.
Et je salue mes invités du club, la journaliste Aline Richard, le physicien Daniel Bloch, le philosophe de l'urbain Thierry Pacaud et le jeune lycéen Adrien Repartz. Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Bienvenue. Bonjour. Daniel Bloch, vous avez signé un article pour le site The Conversation France sur ce que vous appelez l'industrie des conférences prédatrices. C'est quoi, c'est un aspect assez méconnu des rencontres scientifiques?
C'est une dérive. Autant les gens ne savent pas forcément comment marchent les conférences scientifiques, autant là, en fait, il y a des choses qui se passent uniquement pour le business et qui sont en gros des parodies,
oui,
de véritables conférences pour gagner un peu ou beaucoup de sous.
C'est ça, c'est pas joli joli. On va le voir avec vous, Aline Richard. Évidemment, ce sujet a retenu votre attention.
Oui, c'est une première pour The Conversation. Un chercheur qui est physicien, qui s'habille comme un détective ou comme un journaliste et qui fait une enquête d'investigation.
Absolument.
Que nous publions.
On en parlera donc dans un instant. Adrien Repartz, vous êtes probablement, je pense, le plus jeune invité de toute l'histoire de la tête au carré en 11 ans. Vous êtes lycéen. Vous êtes dyspraxique et dysgraphique, ce qui veut dire que vous avez des difficultés avec l'écriture manuscrite. Et vous avez créé un site qui s'appelle Disnetwork, qui n'a rien à voir avec Disney. C'est un outil pour compenser ce handicap des 10, justement. On va faire connaissance donc avec ces troubles et des solutions quand même, oui, qui existent.
Hein. Oui, là, sur Disnetwork, on présente l'ordinateur comme solution pour les enfants 10.
Ouais. Mais ça vous a vraiment sauvé la vie,
oui,
hein, cette histoire.
Hein.
Vous allez nous raconter votre parcours, oui, et le travail que vous avez mené sur ce site. Et puis Thierry Pacaud, vous êtes philosophe de l'urbain. Vous publiez aux éditions du CNRS le Dicorus, c'est le vocabulaire ordinaire et extraordinaire des lieux urbains, des toilettes publiques à l'asphalte en passant par la fontaine publique. C'est quoi? C'est une façon de révéler justement la vie urbaine du présent, du passé?
Oui, c'est de montrer que la ville en cache toujours une autre et que c'est toujours passionnant d'aller l'explorer.
Oui. Avec de bons compagnons de route comme la poésie et le cinéma.
Hein, exactement.
Par exemple, en ce qui vous concerne. Allez, on se retrouve tous dans un instant avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission sur franceinter.fr. En astronomie, on dit souvent que regarder loin dans l'univers, c'est regarder dans le passé, mais parfois c'est un peu regarder le futur aussi. L'étoile Pi 1, photographiée par une équipe internationale, nous montre aujourd'hui avec précision ce que sera notre Soleil dans quelques milliards d'années. Une géante rouge, pleine de boursouflures, qui a certainement commencé d'ailleurs à avaler la plupart de ses planètes. Axel, pour commenter cette photo publiée dans la revue Nature, on en parle avec notre invité qui est en duplex de France Bleu Isère à Grenoble.
Oui, on est avec Jean-Philippe Berger. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble, responsable de l'instrument pionnier qui a permis cette image. Alors, si cette étoile Pi 1 de la grue vous a intéressé, c'est parce que c'est l'avenir de notre Soleil ou il y a une autre raison première?
Alors, c'est effectivement parce que c'est d'abord une étoile très similaire au Soleil, mais vue beaucoup plus tard, mais aussi parce qu'elle représente le prototype de ce qu'on appelle des géantes rouges, qui sont des véritables usines chimiques qui vont enrichir notre galaxie. Ça, c'est aussi extrêmement important de comprendre comment la galaxie évolue chimiquement.
Comment on dit qu'une étoile ressemble à une autre? C'est par sa taille, sa forme, son poids?
Alors, une étoile, en fait, est quasiment entièrement déterminée par sa masse. Donc, une fois qu'on a mesuré la masse d'une étoile, on est presque capable de dire quel sera son sort.
Donc, c'est en ça que c'est la même que le Soleil?
Exactement. La Pi 1 de la grue est à peu près à une masse d'à peu près une masse et demie solaire.
Alors vous démontrez avec ce cliché une chose prédite par la théorie, c'est que les géantes rouges en fin de vie ne sont pas vraiment sphériques mais grumeleuses avec plein de bulles. C'est comme ça qu'il faut la décrire?
Un petit peu, exactement. En fait, bon, on a eu cette chance d'avoir cette étoile qui, normalement ce type d'étoile est complètement entouré de poussière, mais celle-là a une surface qui est complètement dégagée et on peut y voir de manière très distincte grâce à ces observations des espèces de grumeaux, c'est de l'énergie qui est évacuée par l'étoile qui apparaît sous la forme de gigantesques cellules. On parle de cellules de convection comme sur le Soleil mais beaucoup plus grandes.
Et cette étoile, elle change de forme en vieillissant? C'est ce qui caractérise justement la vieillesse d'une étoile ou pas?
Exactement. À la fin de une étoile comme le Soleil, lorsqu'elle a fini de faire fusionner l'hydrogène qui la compose, va évoluer et gonfler assez rapidement pour atteindre la taille de cette étoile, c'est-à-dire quasiment englober l'orbite de la Terre ou voire même l'orbite de Mars.
Donc on est certain que le Soleil va finir de la même manière alors ?
On est à peu près certain que le Soleil finira de la même manière.
C'est prévu pour quand ?
On a un petit peu de temps, on a environ 5 milliards d'années.
Ah,
on,
bah ça
on a
va.
Le temps de se préparer et d'observer ce qui se passe chez les autres.
Pourquoi c'était compliqué d'avoir ce cliché ?
Alors d'un point de vue technique, la surface des étoiles est tellement petite que des télescopes classiques n'ont pas de capacité de zoom suffisante. Et pour ça, il fallait développer un instrument qui soit capable d'augmenter cette résolution. C'est ce qu'on appelle un interféromètre. Et c'est ce qui s'est passé au VLTI au Chili. On était capable de combiner plusieurs télescopes pour en fabriquer un beaucoup plus grand.
Ça veut dire que vous combinez les images des quatre ici télescopes ?
Voilà, exactement. Donc pour zoomer et voir la surface de l'étoile, on est obligé de, ne sachant pas fabriquer des miroirs de plus de 8-10 mètres, on a été obligé de combiner plusieurs télescopes ensemble, et puis on mélange la lumière, le terme technique c'est on l'a fait interférer, et en bougeant les télescopes, littéralement, on va reconstituer peu à peu un énorme télescope de 100 mètres, et donc faire l'image de la surface des étoiles.
Est-ce que Pi 1 avait des planètes autour d'elle au moment où elle a commencé à grandir ?
Alors, on ne peut pas le savoir aujourd'hui, mais si on extrapole des observations qui sont faites aujourd'hui, où on observe que quasiment autour de toutes les étoiles de type solaire, il y a beaucoup de planètes, et en particulier beaucoup de planètes très proches de l'étoile, on peut, je pense, extrapoler et dire que, effectivement, Pi 1 de la Grue a certainement avalé les planètes les plus proches d'elle. Oui.
Pourquoi on l'appelle Pi 1 ? Alors, de la Grue, d'accord, peut-être, mais Pi 1 en particulier, Jean-Philippe Berger ?
Alors, en général, quand ça a un nom grec, ce sont des étoiles relativement brillantes. Et dans une constellation, une étoile est identifiée par l'appartenance à une constellation. Ici, c'est la Grue. Et puis après, on va la nommer en lui mettant une lettre grecque, en commençant par la plus brillante, à laquelle on va donner le nom alpha. Et puis, on va descendre dans l'alphabet grec. Donc, Pi, c'est une étoile qui est un petit peu moins brillante, mais qui est quand même suffisamment brillante. Et le 1, il vient du fait qu'elle vit dans un système double avec un compagnon qui a été baptisé Pi 2.
Dont alpha du Centaure, donc qui brille beaucoup, c'est ça ? Par rapport à Pi 1.
Oui, exactement.
Si on remplaçait le Soleil aujourd'hui par Pi 1 de la Grue, sa surface irait jusqu'où ?
Eh bien, vraisemblablement entre l'orbite de la Terre et l'orbite de Mars. C'est-à-dire qu'on serait vraiment englouti plus là pour l'observer.
Et la vie partie avec, on imagine bien.
Et oui, la vie est certainement partie un petit peu avant, puisque la température à la surface de la Terre deviendrait totalement irrespirable, invivable, et puis l'atmosphère serait soufflée, et puis... oui, effectivement, on ne serait pas là pour voir.
Est-ce que d'autres planètes deviendraient habitables, peut-être ?
Alors oui, ça c'est une bonne suggestion qui intéresse certains planétologues, certaines personnes qui s'intéressent à l'évolution de la vie. Et on peut imaginer que des planètes plus loin dans le système solaire, en particulier des planètes de glace, se retrouvent à ce moment de la vie de leur étoile avec une glace qui fond. Donc, par exemple, d'avoir des planètes océans. Et qui sait pourquoi ne pas voir une nouvelle vie ou une nouvelle forme de vie se développer ?
Est-ce qu'on peut voir Pi 1 de la Grue et son rougeoiement à l'œil nu dans le ciel ?
Alors oui, il faut de bonnes conditions. Je pense qu'à Paris, vous aurez un petit peu de mal. D'abord parce que c'est dans le sud et puis il faut une atmosphère relativement claire. Mais on voit à la fois, elle est suffisamment brillante pour la voir avec des bonnes jumelles. Mmh. Et puis son rougeoiement est aussi perceptible quand le ciel est pur.
On ne voit pas les bulles ?
Non, on ne voit pas les bulles. Pour ça, il faut utiliser un interféromètre. Il faut aller au Chili, au VLTI.
Tout ça à cause de la pollution urbaine, hein, Thierry Pecaud, justement. Vous voyez, on ne peut pas regarder Pi 1 de la Grue à cause de ça, finalement.
J'en suis absolument désolé.
Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Philippe Berger, pour ces informations. Est-ce qu'on a mis la photo sur le site
Alors,
Axel ?
Peut-être pas encore, mais dans l'après-midi, on va le faire.
On va le faire pour
Avant
que les auditeurs...
Avant de partir en vacances, on va le faire.
Pour voir Pi 1 de la Grue. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces informations. Et Axel, on se retrouve bientôt après les vacances.
En janvier.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, on parle d'un pansement pour les yeux avec une équipe de chercheurs français de l'ISTEM qui vient de mettre au point donc une technique permettant de soigner certaines maladies génétiques de l'œil à l'aide de cellules souches embryonnaires humaines. Ils sont parvenus à réaliser une sorte de patch cellulaire qu'ils ont greffé dans la rétine de rats atteints de rétinite pigmentaire. L'équipe a constaté une amélioration des performances visuelles des rongeurs et espère pouvoir passer rapidement aux essais cliniques sur des patients humains. Des résultats qui donnent espoir aux quelques 40 000 personnes souffrant de rétinite en France, mais également aux 1,5 million atteints d'une autre maladie dégénérative plus commune, la DMLA. Les serpents du monde menacés par un champignon. Des chercheurs américains s'inquiètent cette semaine de la propagation d'une maladie fongique susceptible de toucher toutes les espèces connues de serpents. Déjà détectée chez 23 espèces aux États-Unis et 3 en Europe, cette maladie forme des lésions cutanées et s'étend rapidement à tout le corps de l'animal. Bien que la mue puisse parfois résoudre le problème, l'infection est souvent fatale. Ce serait l'ensemble des 98 groupes de serpents de l'Est des États-Unis qui seraient menacés, mais potentiellement tout le reste des espèces. Et puis cette année, c'est la recherche sur le régime qui a le plus intéressé les internautes. C'est ce qu'indique la compagnie anglaise Altmetric qui publie son top 100 des articles scientifiques les plus discutés en 2017. Pour ce faire, elle a épluché plus de 18 millions de résultats de recherche et mentions faites sur le web. Le top 3 est donc le suivant. En première place figure un article dénonçant l'impact des régimes alimentaires sur les maladies cardiovasculaires. Il a été cité 168 fois dans les médias et mentionné dans plus de 8000 tweets. En deuxième position, un article sur la santé mentale des doctorants. Et le troisième article le plus commenté concerne un taux de mortalité plus faible chez les patients traités par des femmes. Et c'est le club dans un instant.
Spleen élégant, le blues enchanteur, il devait être aveugle et sourd pour être allé faire un tour. C'est pas la peine de faire semblant, je sais qu'on n'est pas des géants. Viens, on pleure, on pissera moins. Comme toujours, ça passera, ça va, ça. Si tu chiales, je coule avec toi. Viens, on danse, ça se verra moins. Comme toujours, ça passera. Ça va, ça vient, ça s'en va. Dans deux ans, on en rira, toi et moi. Viens, je t'emmène au Palladium.
Palladium, c'était les Brigitte.
La tête au carré, le club.
Oh oh, voilà notre brillant scientifique.
Avec Mathieu Vidard. sur France Inter.
Les dents, Fanny Boyon, on fait des jingles sans nous prévenir maintenant. Voilà, pour annoncer ce club cet après-midi avec le business des conférences scientifiques, un site internet sur la dyspraxie et un dictionnaire des lieux urbains. Vous nous rejoignez avec vos messages sur le site de l'émission franceinter.fr. On démarre ce club justement avec un article que vous signez, Daniel Bloch, sur ce que vous appelez les conférences prédatrices. Vous êtes physicien au laboratoire de physique des lasers à Paris 13 et puis vous êtes directeur de recherche au CNRS. Et Aline Richard, donc vous avez édité cet article pour le site The Conversation France. Alors Daniel Bloch, c'est une véritable enquête, hein, Aline le disait tout à l'heure, que vous avez menée sur ces parodies lucratives de rencontres scientifiques. Alors de quoi il s'agit exactement ?
Il s'agit que les conférences, c'est des choses qui sont des activités normales dans la science. C'est-à-dire qu'en gros, en moyenne, je passe une semaine ou deux semaines par an dans des endroits divers qui peuvent être en France ou qui peuvent être plus loin dans le monde, à rencontrer des collègues, à raconter ce que j'ai fait éventuellement, à écouter des gens plus savants que moi ou à emmener des jeunes qui vont... Ça, c'est une activité tout à fait normale. Ouais. Et en même temps, avant, c'est des choses qui se passaient. On était prévenus, en fait, par un affichage qui arrivait dans les laboratoires, par des listes de diffusion. Donc, on envoyait du papier et on avait trois circulaires. Et là, maintenant, avec le net, ça devient beaucoup plus facile de communiquer qu'il va y avoir une conférence partout dans le monde. Et tout le monde, je dirais, pratiquement, reçoit finalement des invitations à aller à une conférence en Chine où on se rend compte que c'est un petit peu bizarre. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont habitués à recevoir ça. Et finalement, il y en a pas seulement en Chine ou dans des endroits exotiques, il y en a quelques-unes qui peuvent se tenir en Europe. Ouais. Il y a des endroits où on vous dit que vous êtes invité, ce qui donne un certain prestige aux gens. Donc on a l'impression que c'est une vraie invitation.
Donc on vous paye le billet.
Quand on est invité, le principe,
voilà. C'est que c'est du business.
Hein. Absolument. C'est-à-dire que justement là, je suis très content d'avoir été invité à France Inter.
Gratuit. Hein.
On m'a pas fait payer.
Mais oui, on paye rien. Vous savez, on n'a pas de budget même pour un ticket de métro. Donc
c'est ça. Mais au moins, on m'a pas demandé payer 500$ et je suis entré, je dirais, dans non,
c'est pas une
dans
idée, ce business. On pourrait faire ça d'ailleurs maintenant. Hein.
Je suis pas entré dans ce business,
mais j'étais très surpris. C'est ça, Mathieu.
Faire payer les invités pour s'exprimer. Bah, après tout, on fait la pub pour leur livre, par exemple.
Hein. Ah, mais là, il n'y a pas de livre, c'est en ligne gratuitement.
C'est vrai, ça, comme bah oui. C'est pas une mais
où j'étais, très surpris, c'était de voir finalement des collègues japonais où j'étais finalement co-signataire de la chose pour un événement qui se passait en France et où il y avait d'une part une grosse faute d'orthographe comme si. Un institut général, c'était écrit avec un E à la fin, ça m'aurait paru bizarre. Il fallait payer en dollars pour une conférence qui était en France. Là, j'ai dit,
Il y a quelque chose,
de pas normal. Ouais. Et c'est comme ça que ça m'a donné envie d'enquêter parce que j'étais en plus co-signataire.
C'est ça. Thierry Pacot, vous constatez le même phénomène dans les sciences humaines ou pas?
Oui, absolument. Ouais. Ça se développe considérablement.
Donc beaucoup d'invitations.
Voilà, par exemple, ce matin, j'ai répondu à un mail qui m'était arrivé de Corée que j'avais mal lu. Je me suis dit, super, je suis invité. Et voilà. Pas du tout. Il fallait d'abord que je fasse une proposition d'article. Si celle-ci était acceptée, peut-être que je pouvais y aller, mais avec un financement de mon laboratoire.
Ouais. Aline.
Alors, j'ai une question qui fâche peut-être un peu, je sais pas.
Hein. Allez,
fâchons-nous. En fait, à écouter Daniel et à écouter d'autres scientifiques qui parlent des conférences prédatrices, on a l'impression qu'il y a quand même un gros problème en Asie. Est-ce que c'est un problème uniquement en Asie ou est-ce qu'il y a des conférences prédatrices en Amérique latine, aux États-Unis? Bon, Daniel, dans son article, parle effectivement de la France, de l'Europe, mais est-ce qu'on peut dire que c'est géographiquement un problème ou pas?
Alors, quand on dit que c'est la Chine ou que c'est l'Asie, c'est aussi parce que c'est des pays qui sont en fort développement scientifique. Donc on sait qu'il y a des vrais besoins et qu'ils investissent là-dedans, ce qui est beaucoup moins le cas par exemple pour l'Amérique latine. En revanche, ils n'hésitent pas éventuellement à se donner des adresses aux États-Unis ou éventuellement en Europe, avec parfois, je veux dire, un renvoi. En fait, il y a un numéro de téléphone aux États-Unis et puis en fait, l'autre, il est en Chine. Cette conférence qui était en France, j'ai découvert que l'indicatif 86, j'ai regardez, ah bah oui, tiens, c'est la Chine. C'est comme ça que je m'en suis rendu compte, en fait. Et il y avait aussi, également, une adresse qui était aux États-Unis dans l'adresse téléphonique. Sinon, on met une adresse .com.
Mais oui, c'est vraiment des arnaques mondiales, quoi.
C'est des arnaques.
C'est la mondialisation de l'arnaque.
Tout à fait, comme les conférences. Le niveau de la conférence est intéressant.
Thierry Pacot. Alors oui, ça c'est sûr, parce qu'il faut aussi parler du contenu, parce que effectivement, il y a tout ce vernis là, que vous décrivez. Mais est-ce que effectivement, parce qu'on fait quand même appel à des universités françaises, à des laboratoires aussi parfois, est-ce que le contenu apporte quelque chose scientifiquement à ceux qui participent à ces conférences, qu'on appelle aussi des congrès, des symposiums, des workshops, des séminaires?
Alors, quand, justement, workshop, congrès, etc., ça c'est les vraies choses. Souvent, conférence internationale, je me suis rendu compte que c'est un mot qui paraît lourd de sens et que, justement, c'est une façon d'attirer les gogos que moi, j'ai pas souvent été dans des international conferences. Pas si souvent que ça, en fait. Hein, je suis beaucoup plus souvent sur des petits ateliers franco-soci ou des choses comme ça.
Alors, le contenu scientifique, oui, il est solide ou pas?
Alors, le contenu, en gros, il va pas être solide. Soit il sera inexistant, soit il va y avoir quelques gens qui auront été piégés, qui vont raconter des choses qui seront sérieuses, mais qui seront écoutées par des gens qui sont pas en état pour de bon, parce qu'ils sont pas assez proches de la discipline, parce que ils ont cherché justement à avoir un nom qui soit large et à mettre 20 domaines ouverts pour que les gens cherchent à venir. Il y a pas beaucoup de gens du domaine qui vont y aller, et quelques gens seront piégés, et il y a d'autres gens qui vont pouvoir aussi raconter n'importe quoi. Ça, j'ai vu aussi sur une conf qui était à Berlin, où à la fois des gens sérieux y étaient, et d'autres qui racontent des âneries.
Ouais. Et tout ça se passe dans des lieux tout à fait sérieux, parce que ça peut se passer dans des universités, par exemple.
Ça peut parfois se passer dans des universités, effectivement, si... oui, ça peut arriver.
Mais ça, c'est quand même très gênant, parce qu'on voit qu'on brouille complètement l'image, en fait, aussi.
Alors, j'ai l'impression que ça arrive pas, que ça arrive plus souvent, en fait, dans des hôtels ou dans des salons d'hôtels. Il y a parfois des visites académiques qui sont facturées. J'ai quand même écrit à une université en France où il y avait marqué visite académique, $100 pour visiter, mais c'était pour visiter le samedi, un ensemble de bâtiments.
Oui, très intéressant.
Donc, je ne sais pas. Et je pense que les gens viennent pas pour ça. Après, ils vont s'égayer après.
Donc, ce que vous montrez, c'est qu'il y a une vraie industrie autour de ces conférences scientifiques.
En gros, il y a deux ou trois industriels qui font ça, qui sont repérés pratiquement sur Wiki en anglais, et il y a aussi des petits artisans.
Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde le CV de ceux qui invitent aussi. Hein. C'est-à-dire que les invitants s'octroient aussi des titres ou ont tendance à faire gonfler leur CV.
Alors, ça peut dépendre. Il y a d'une part, parfois, dans les invitants apparents, c'est parfois des gens dont on a voler finalement le CV. Donc il y a des gens parfois qui sont mis comme étant membres du comité, qui sont des gens tout à fait sérieux, mais qui en fait ne seront pas à la conférence, et c'est fait contre leur gré. Et il y a effectivement un endroit où j'ai repéré qu'avec à la fois des vraies personnes, mais qui n'étaient pas à la conférence, un autre, là où c'est complètement romanesque, qui s'est inventé membre du comité Nobel de chimie, enfin voilà. Qui s'est inventé une université qui n'existe pas en Californie. Enfin, j'ai donné le site, j'ai pas été jusqu'à donner le nom de la personne, pour éviter les diffamations.
Ouais, ça vous a chatouillé quand même.
Ah, ça, c'est,
voilà,
ça,
alors, on a évité toute diffamation à The Conversation, on n'a pas l'argent pour payer. Et Daniel raconte aussi, je le dis aussi pour les auditeurs, un truc complètement loufoque, qui est la conférence croisière. Alors ça, c'est génial, la conférence croisière.
Mais c'est ce qu'on voit dans les magazines français, par exemple? Vous partez en croisière avec de grands scientifiques qui vont...
Non, c'est une conférence scientifique, sur un bateau, ah ouais. Voilà.
Mais ça, on voit de la pub sans arrêt pour ça.
Des croisières où les gens payent leur participation avec un ou deux conférenciers qui vont faire de la science ou qui vont raconter de l'histoire, ça oui. Alors que là, non, c'est une conférence qui existe déjà, qui est en gros annuelle, avec des scientifiques, même si je pense que, je dirais, il n'y a pas un comité vraiment derrière. Parce que ça organisait plutôt en forme de petit symposium, et donc je sais pas tout à fait où l'argent est redistribué. Et là, pour attirer plus les gens, ils décident de la faire. Après tout, c'est un hôtel flottant
sur un bateau.
Sauf que le bateau, il sera quand même de temps en temps à l'escale. Et là, je sais pas si la conférence a lieu pendant l'escale, quand les gens sont en train de visiter, ou si ça a lieu pendant la nuit, quand le bateau navigue.
Et alors, c'est très rigolo parce que, en fait, quand on l'a publié aussi sur notre site, vous avez donc un voucher, une facture, et vous pouvez vous planquer de votre université en demandant qu'il n'y ait pas le mot croisière sur la facture.
Ouais, bien sûr, pour que ce soit beaucoup plus sérieux.
C'est même le contraire, c'est plutôt marqué, ça n'apparaîtra pas sur la facture, sauf demande explicite.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. On protège tout le monde d'emblée. Alors, ce qui est incroyable, c'est que vous dites qu'il y a de très très grandes revues qui publient l'annonce de ces conférences. C'est-à-dire qu'une revue comme Nature, par exemple...
Dans Nature Alert, c'est là que j'ai vu cette annonce.
On peut trouver ça.
Oui, en fait, d'une part, ils peuvent éventuellement gagner de l'argent si on fait la publicité en plus gros caractère, mais on peut apparemment envoyer gratuitement. Justement, avant, quand les choses étaient papier, ça risquait pas d'arriver. En fait, lancer une conférence, t'avais une mise de fonds qui était d'envoyer 1000 affiches en payant les timbres. Fallait... fallait être sûr que les gens viennent. Et alors que là, au contraire, ça facilite tout à fait ce genre de travail-là. Ouais. Et il y a aussi les revues scientifiques de grandes sociétés savantes qui se mettent à publier parfois les actes de...
Ah oui, c'est ça, parce qu'il y a l'aspect prédateur et éditeur ensuite. C'est-à-dire qu'ils publient sous forme d'actes, justement.
Oui, mais c'est parfois des vrais éditeurs qui se mettent à publier des conférences et dont je dirais qu'en gros, les éditeurs se mettent en gros à être l'abri. Finalement, ils sont un peu comme la banque qui fait des choses pas normales.
Ouais. Enfin, ce qui est incroyable, c'est comme le disait Thierry Paco tout à l'heure, c'est qu'on a vite fait de se faire piéger finalement.
Il y a des gens qui se font piéger. Ouais. Oui, tout à fait.
Et vous êtes inondé par ce type de proposition aujourd'hui? Vous constatez une sorte d'inflammation de la question ou pas?
Non, mais à la limite, tant que c'est un spam. C'est pas très grave, on peut traiter ça une fois par semaine ou une fois par jour, on regarde, on apprend, c'est pas grave. Si c'est pas des gens que je connais ou une communauté que je connais, je risque pas d'y aller. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais je suis pas souvent invité en conférence, c'est à cause du copinage. Ah, on m'invite, j'y vais », et qui sont pas regardants. Ouais. Et c'est là-dessus qu'il faut tirer l'alerte, je crois.
Est-ce qu'on peut se retourner contre ces escrocs, quand même, qui organisent ces conférences bidons?
Alors, oui. Disons que il y a justement un site qui est l'Académie mondiale de la science et des technologies d'ingénierie de WASET. Sur Wikipédia, ils expliquent que c'est eux qui ont fait un procès quand ils ont été traités de prédateurs en demandant, j'ai plus $1 milliard à ceux qu'ils faisaient. Mais le procureur fédéral américain a dit en fait non, vous avez fait payer de façon décevante sur des fonds fédéraux et c'est moi qui attaque.
Ouais.
Voilà. Mais c'est à ce niveau-là que ça se passe, à ce moment-là. Donc c'est pas un directeur de labo qui gère un peu de sous qui va le faire, quoi.
Ouais. Vous tentez d'alerter, vous, sur cette question, Daniel Locke, aujourd'hui?
Justement, oui. Ouais. C'est exactement ce que...
C'est pour ça que vous avez signé cette enquête.
Tout à fait. Je veux dire, le titre enquête, initialement, pour moi, c'était presque alerte, parce que c'est un peu de lancer l'alerte.
Ouais. Il y a une prise de conscience là-dessus, aujourd'hui, ou pas?
C'est en train d'arriver.
Ça commence juste.
Parce que jusqu'ici, quand on prévient les directeurs de labo, ils ont envie de dire, bon, ben je vais régler en interne, ou ils répondent pas. À mon avis, ils traitent en interne, mais ils répondent pas.
Donc on peut lire cette enquête sur le site The Conversation France, Aline Richard.
Absolument, The Conversation France.
Voilà, et c'est sur le site de La Tête au Carré, en lien, bien sûr, comme tous les sujets dont on parle cet après-midi. On va parler de dyspraxie dans un instant, avec un jeune invité qui s'appelle Adrien Ropartz.
Your business next to mine. Uh-huh, uh-huh. Say I didn't tell you so. Uh-huh, uh-huh. You better pack your things and go. You've been so long, it's in the back door. Can't you see I got your eyes? Let me warn you, hear my man. Don't be your business next to mine. Uh-huh. Business next to mine. Tell you so.
The Limbos, No Business Next to Mine.
La tête au carré, le club, sur France Inter.
Adrien Repartz est également dans ce club, 18 ans, en terminale ES, en vacances d'ailleurs aujourd'hui, bien heureux Adrien. Alors on va parler d'un problème, d'un handicap qui est le vôtre. Vous avez été diagnostiqué dyspraxique et dysgraphique, deux troubles assez peu connus, on va les définir ensemble au niveau des fonctions cognitives. Et vous êtes là parce que non seulement vous connaissez très très bien le sujet, mais vous avez créé un site internet qui s'appelle DysNetwork pour venir en aide aux personnes qui ont ce handicap. Alors de quoi s'agit-il exactement, la dyspraxie et la dysgraphie? Est-ce que d'abord ça va souvent ensemble,
oui,
ou pas?
Ça va souvent ensemble. Il y a beaucoup de troubles 10 qui vont. En fait, souvent les troubles 10 sont. On est souvent atteint de deux troubles 10.
Mm-hmm.
Et alors, la dyspraxie, c'est un trouble de la coordination. Et la dysgraphie, c'est un trouble du langage écrit. C'est-à-dire, c'est un trouble de l'écriture manuscrite.
Ouais. Donc, c'est ce qui vous pose d'ailleurs, vous, oui, le plus de problèmes?
Je pense que c'est ce qui pose le plus de problèmes à l'école.
Ouais. Alors, qu'est-ce que ça pose comme problème, d'ailleurs, justement? Et puis, à quel âge vous avez été diagnostiqué, vous?
J'ai été diagnostiqué à 15 ans, et je pense que ça pose des problèmes à l'école, souvent quand on arrive au lycée, parce que comme on rédige beaucoup plus au lycée, si un enfant a des problèmes de rédaction et d'écriture, et que ça le fatigue beaucoup, ouais, il va avoir tendance à moins se concentrer sur ce qu'il va écrire, mm-hmm, et il va se concentrer sur l'écriture manuscrite, ce qui va beaucoup le fatiguer.
Ouais. Donc ça, c'est vraiment le problème pour vous, mais ça se concrétise comment, alors, par rapport à l'écrit? C'est
par
vraiment
une
pour vous
assez...
une difficulté d'écrire de façon aisée?
Oui, c'est à la fois une difficulté, mais en fait, comme les enfants disent, compensent énormément,
ouais,
ils arrivent à essayer de la compenser, mais en fait, ils vont perdre de la concentration, donc de ne pas avoir des très bons résultats à l'école.
C'est ça, parce que ça vous prend évidemment beaucoup d'énergie pour compenser.
Beaucoup plus d'énergie qu'un enfant normal qui va écrire une copie, ouais, pendant 4 heures.
Au détriment donc de l'attention. Et comment vous, Adrien, vous avez découvert ce problème?
En seconde, quand j'avais pas mal de mauvaises notes, on s'est interrogé sur les raisons, parce que on disait souvent que je travaillais pas, alors que bon, je pensais que je travaillais assez pour l'école.
Ouais.
Et donc, je suis allé voir un médecin et on a fait ce diagnostic.
Ouais. À quel âge, donc?
À 15 ans.
À 15 ans. Ce qui est un petit peu tard, finalement, ouais, non? Parce que souvent, vous aviez déjà des problèmes depuis longtemps à l'école.
Oui, j'avais souvent des problèmes au lycée, au collège.
Ouais.
Et souvent, c'est détecté en 6e, mais c'est souvent plus adapté de le détecter en 6e que très tardivement. Parce que plus c'est tard, plus ça sera compliqué après.
Ouais. Et donc, vous avez trouvé facilement le bon diagnostic, ou vous avez un peu erré pour
alors,
connaître...
Alors, pas mal de médecins pour trouver
ça,
le bon
même
diagnostic. Donc on va en premier lieu voir un médecin, un pédopsychiatre qui va faire le diagnostic.
Ouais.
Après, on va faire un diagnostic chez un autre médecin. Et après, chez une ergothérapeute, on fait 3 diagnostics.
Ouais.
Donc pour en fait, à chaque fois, affiner le résultat.
Et vous, l'ergothérapeute, je crois qu'elle a été importante justement dans votre parcours.
Parce qu'après, quand on fait le choix de passer sur ordinateur, parce qu'on a l'ordinateur est une solution.
Eh oui, absolument, on va en parler.
Et donc, dès qu'on passe sur ordinateur, on peut faire le choix d'aller chez une ergothérapeute qui va nous aider à apprendre le clavier par cœur et donc à maîtriser l'ordinateur et en fait à automatiser la frappe plutôt que l'écriture manuscrite.
Et alors, ça vous a posé beaucoup de problèmes au niveau de l'école, ouais, à tel point que vous avez été obligé de changer régulièrement de collège avant d'être diagnostiqué,
non.
Ou
non,
comment
non.
Ça s'est passé?
Au collège, j'ai réussi à survivre au système.
Ouais.
Et après, c'est au lycée où, quand j'ai été diagnostiqué, ça a été un peu plus compliqué.
Ouais. Et donc là, il y a eu plusieurs établissements.
Donc là, j'ai fait 3 établissements, 3 lycées différents.
Ouais. Parce qu'en fait, c'est pas du tout adapté.
Non,
c'est ça le problème, en réalité.
Parce que le système français n'est pas du tout adapté, comme on a beaucoup de rédactions encore, des épreuves très longues de 4 heures, sachant que les enfants dits ont souvent du mal à se concentrer. C'est très très long pour un enfant de se concentrer, surtout quand il a encore ses difficultés.
Adrien, on va écouter un reportage qui avait été diffusé sur France 3 en 2015 et qui raconte la même histoire que la vôtre avec un autre jeune homme.
Alors, moi je l'écris, toi tu recopies. D'accord ?
En 2007, Alexandre a 8 ans. Ces tests démontrent une dyspraxie sévère, une grande difficulté à effectuer un geste simple là où d'autres enfants le font automatiquement. Aujourd'hui, Alexandre a 15 ans. Des années de rééducation lui ont permis d'améliorer la coordination de ses mouvements, mais rien à faire. Son handicap est toujours là. Dès le primaire, Alexandre a donc bénéficié d'aménagements spécifiques, notamment l'utilisation d'un ordinateur.
Le regard des autres, ça a changé sur certains points. Il a un ordinateur, il est différent, il a certains avantages. Il vient pas en cours l'après-midi parce que, etc., etc. Moi aussi, j'aimerais bien faire ça. C'est plus de la jalousie que de la pitié.
Alexandre est en seconde et malgré son 10, effectue une bonne scolarité, entouré de copains, comme les autres élèves.
Alors, c'est ça, Adrien, la solution?
Oui, c'est l'ordinateur. Je pense que...
Comment vous avez découvert ça d'ailleurs?
On m'a dit, il faudrait peut-être passer sur ordinateur, il faudrait y réfléchir. Donc après, j'ai regardé sur Internet, j'ai regardé des solutions, des logiciels. Et puis après, je me suis lancé sur l'ordinateur.
Ouais. Vous les avez testés, les différents logiciels en
fait?
Oui,
j'ai testé ce qui existait parce que, en fait, quand on passe sur ordinateur à l'école, c'est plus un changement de méthode, un changement d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on va plus apprendre, on n'aura plus de feuilles, on n'aura que tout sur l'ordinateur. Donc c'est vraiment un changement d'organisation, donc il faut y réfléchir, il faut regarder comment ça se présente.
Et qu'est-ce que ça simplifie en fait, fondamentalement pour vous, d'utiliser l'ordinateur?
L'écriture, donc je suis beaucoup moins fatigué en classe, et en plus je peux écouter le cours. Donc
vous tapez très vite?
Oui, je tape très vite, et puis quand je sors d'un cours, je sais ce que j'ai tapé, donc je me souviens de ce que j'ai écrit.
Ouais.
Ce qui est beaucoup plus intéressant que ne pas s'en souvenir.
Bien sûr.
Et ça change pas mal de choses aussi au niveau des contrôles, c'est-à-dire qu'on a plus des copies sales, sachant qu'on part, je pense, pas mal de points là-dessus.
Ouais.
Alors, on a des copies propres, donc donc les professeurs seront beaucoup plus attentionnés.
Mm-hmm. Et vos notes ont bien augmenté. C'est largement augmenté, c'est-à-dire, donnez-nous un exemple, vous êtes passé de combien à combien?
J'avais 3 de moyenne en maths en seconde quand j'avais pas d'ordinateur. J'ai dû passer dans ma deuxième seconde à 12 de moyenne.
Ah oui, quand même, ça change tout.
C'est
hein.
Impressionnant.
Aline.
À propos de maths, il y a un trouble 10 dont on parle beaucoup, qui est la dyscalculie. Et je voulais vous demander votre avis. Nous, on a l'impression que c'est devenu, on en a beaucoup parlé, mais finalement, on ne sait pas bien si les personnes sont dyscalculiques réellement ou si finalement c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui rencontrent des problèmes en mathématiques, mais qui ne sont pas forcément 10.
C'est quoi la dyscalculie exactement?
La dyscalculie, c'est un problème au niveau du calcul, des additions. En fait, on a des difficultés à additionner, à soustraire. Donc ça pose vraiment de gros problèmes à l'école en mathématiques. Mais je pense qu'il faut faire très attention à dissocier en fait les personnes qui ont des difficultés en mathématiques et les personnes qui sont réellement dyscalculiques. Et ça passe par un bilan médical.
Ah oui. Sinon, on est très nombreux à être dyscalculiques. Je peux vous le confirmer, effectivement.
Comment ça se diagnostique de façon un peu plus précise?
On fait des tests chez un pédopsychiatre, et donc je crois qu'il y a les tests WISC-4. Alors pour moi, ça a été les tests WISC-4. Mm-hmm. Donc c'est un test américain qu'on passe. En fait, c'est quand même un peu un test d'orthophonie, peut-être un peu plus poussé.
Alors Adrien, donc vous décidé carrément de prendre les choses à bras-le-corps et de fonder votre propre site internet qui s'appelle donc disnetwork.com, hein, et dans lequel on peut vraiment en savoir plus sur les bons logiciels par exemple aussi à utiliser.
En fait, j'avais remarqué que quand je cherchais pas mal de logiciels pour passer sur ordinateur, il y avait beaucoup de logiciels qu'on me proposait mais qui n'étaient pas souvent mis à jour. Et donc je voulais proposer une approche un peu plus moderne du trouble, du handicap. Mm-hmm. Et donc j'ai créé le Disnetwork.
Les solutions surtout.
Voilà. Et donc je voulais montrer qu'il existe plein de logiciels auxquels on n'a pas forcément pensé, qui peuvent être très utiles à l'école, parce que quand on passe sur ordinateur, on n'a pas forcément pensé à tout. C'est-à-dire qu'on va arriver le premier jour et on va se dire « Ah oui, mais j'ai pas pensé à prendre mes devoirs sur l'ordinateur, j'ai pas d'agenda électronique.
Ouais. » Ça, la question de l'emploi du temps et de l'agenda, c'est absolument fondamental aussi quand on a ces types de handicap.
Il m'arrivait souvent quand j'étais plus jeune, au primaire, de regarder mes devoirs que j'avais à faire et de remarquer qu'en fait, j'arrivais plus du tout à lire ce que j'avais écrit.
Ouais.
Donc ça simplifie les choses de savoir quand même les devoirs qu'on a à faire le soir.
Bien sûr. Donc l'organisation, ça passe aussi par ces logiciels qui peuvent aider. Du coup, vous en avez testé combien? C'est un travail que vous faites régulièrement, en tout cas?
Maintenant, avec ce site internet, je regarde ce qui apparaît comme solution.
Mm-hmm.
Puis maintenant, il y a des logiciels que j'utilise au quotidien.
Ouais.
Puis après, il faut aussi apprendre la gestion de l'ordinateur. C'est-à-dire que c'est plus du tout la même chose que trier un classeur. C'est la gestion de dossiers sur l'ordinateur, des documents, de fichiers, les différents formats de fichiers. Donc, ça peut être un peu compliqué quand on est plus jeune. Mais en fait, on s'y habitue très vite. Puis je pense que ça peut vraiment être une aide parce que souvent, ces enfants, 10, ont des problèmes pour ranger bien un classeur, bien organiser un classeur.
Ouais.
Et la langue, c'est plutôt l'anglais, les sites sur lesquels vous allez trouver des solutions?
Moi, je regarde, pas mal de sites en anglais, et puis après des sites... En fait, je réfléchis surtout aux logiciels qui existent, et puis après je me dis, ça pourrait être utile à l'utiliser de cette façon-là pour les enfants 10. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de sites où on dit, ce logiciel est très bien pour les enfants 10. Donc moi je regarde et je me dis, ça pourrait aider des enfants dyslexiques, ça pourrait aider des enfants dyspraxiques ou dysorthographiques.
Et ça vous prend beaucoup de temps, ça, quand même, en plus de la terminale, non, et du bac à préparer à la fin de l'année, ça va?
Oui, j'essaye de le faire, moi, dehors de l'école. Ouais.
Alors, on se donne l'adresse, hein, l'adresse net, donc c'est disnetwork.com. Il est en lien, évidemment, sur La Tête au Carré. Je pense que ce sera très utile pour beaucoup de parents et d'enfants, évidemment, qui nous écoutent aujourd'hui, autour de la dyspraxie et de la dysgraphie. Adrien Repartz, c'était votre première radio. Bah, chapeau, hein. Franchement, bravo. Et vous restez avec nous pour parler dans un instant du vocabulaire de la rue avec le nouveau dictionnaire de Thierry Paco.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient. Un bateau qui s'en va et revient. Il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coulent, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne, tire d'elle en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça prévient. Comme un bateau qui revient, et soudain, il y a 1000 sirènes de joie sur ton chemin, qui résonnent, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile, en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle, et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. De joie sur ton chemin qui résonne, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra tire d'elle en rapportant le duvet qui était son lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan.
Ce n'est rien, et c'est Julien Clerc sur France Inter.
Le club sur France Inter.
Tonton, on prend le métro ?
Le métro, le métro, le métro, mais le voilà le métro !
Le métro, le métro, le métro, le métro, c'est sous terre le métro, non mais ?
Celui-là, c'est l'aérien.
Alors c'est pas le métro.
Je vais t'expliquer. Quelquefois, il sort de terre et ensuite, il y re-rentre.
Des histoires.
Ah, Paris, il sera toujours Paris. Regarde, Zézie, si c'est beau.
Oh, je veux un taxi.
Ah ! Plus loin, les tombes s'entassent des Parisiens qui allèrent et vinrent dans les rues et qui tant firent qu'à la fin, ils disparurent dans l'humus de la ville tout imprégné de soucis.
Voilà, c'était pour vous, ça, Thierry Paco. Zazie dans le métro.
Ah bah merci.
1960. Louis Malle, Philippe Noiret, évidemment, dont on a reconnu la voix pour introduire votre.
Et une petite qui s'appelait Demangeau, mais qui n'est pas la comédienne, qui va devenir prof de sciences économiques plus tard.
Ouais. Dicoru, vocabulaire ordinaire et extraordinaire des lieux urbains. Ça paraît aux éditions du CNRS. Vous êtes philosophe de l'urbain, professeur émérite à l'Institut d'urbanisme de Paris, au sein de l'Université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne. À quoi s'intéresse un philosophe de l'urbain, Thierry Paco?
Eh bien, tout ce qui permet dans la ville à devenir ce qu'on est.
c'est-à-dire d'une certaine façon à exalter la topophilie de chacun, c'est-à-dire
yep. cette topophilie. Qu'est-ce
oui,
que c'est?
Je vais l'expliquer. cet amour du lieu. C'est Bachelard hein, qui nous explique ça très bien. Et je pense qu'autour de cette table, on est tous topophiles, voilà.
Ouais.
Et donc il faut essayer de comprendre comment les lieux ont fait de nous ce qu'on est devenu.
C'est ça. Alors, qu'est-ce qui caractérise la ville justement? Un lieu qui est en perpétuel changement au fond. Il n'y a pas une ville fixe.
Non.
Tellement...
Alors, la ville est une idée, j'allais dire. C'est une idée qui combine trois qualités, l'urbanité, la diversité et l'altérité.
L'urbanité ayant son entrée dans ce dictionnaire, hein, que vous avez longuement traité.
Ah
oui, quand même.
Non, l'urbanité, c'est un terme qui n'existe pas chez les Grecs, qui vient de Cicéron, donc c'est un terme latin, urbanitas, qui signifie simplement la maîtrise de la langue, la maîtrise de la langue latine, au point où on va être excessivement accueillant avec celui qui vient d'ailleurs, qui bafouille, qui parle mal, qui a du patois, qui a un accent. Alors ça, c'était terrible, hein, à un moment donné, ouais. On se fait tout de suite repérer comme un plouc. Et donc, du coup, là, celui qui est urbain, c'est celui qui a cette délicatesse de vous dire soyez le bienvenu.
Ouais, c'est joli d'ailleurs, hein, parce que c'est l'autre sens de l'urbain aussi. Hein.
Oui, absolument.
C'est ça.
Ouais.
C'est vous qui êtes spécialiste de la question, avec donc ce dictionnaire qui comporte 180 entrées, qui commence par abribus, qui se termine par la zone, et puis on voyage avec donc votre grande passion, la poésie, puisqu'elle vous accompagne. C'est quasiment une hygiène de vie chez vous. Comme les dictionnaires d'ailleurs aussi. Ah,
absolument, il n'y a pas un jour où je ne lis pas un poème, et c'est un principe d'hygiène mentale qui m'avait été soufflé à l'oreille par Gaston Bachelard, qui avait dit que c'était avant de se laver les dents, il fallait lire un poème.
Bon. C'est ça.
Et c'est vrai que toute la journée, il vient en tête et il vous aide à découvrir des tas de choses que vous n'aurez pas vues. Et puis le dictionnaire, qui pour moi comme un livre de cuisine, c'est de la gourmandise des mots. Eh bien, c'est pareil, il n'y a pas un jour où j'ouvre pas mon dictionnaire.
Ouais. Alors là, en plus, ce qui est formidable, c'est que vous avez écrit le vôtre. Donc avec toute la subjectivité aussi qu'on peut y mettre. Hein.
Alors ça, je me suis inspiré d'un maître qui est Pierre Larousse, tout simplement. C'est que lui, il donnait son point de vue dans les définitions qu'il décrivait. C'était pas simplement un lexicographe, c'était aussi quelqu'un qui prenait position.
Absolument. D'ailleurs, il y a un exemple que je vais retrouver dans un instant, puisque vous le citez dans ce dictionnaire. Un mot sur le métro.
Oui, c'est la flânerie.
Voilà, c'est ça.
Exactement.
Voilà, celui qui flâne dans la ville... Et qu'est-ce qu'il dit justement à Paris ou ailleurs Paris est une ville particulière pour flâner.
Voilà,
c'est ça.
Ouais, c'est ça. Lui, il dit on est flâneur et donc c'est une sorte de pathologie excessivement. Alors qu'en fait, non, on le devient. Et là, moi, je préfère la phrase magnifique d'Honoré de Balzac qui définit la flânerie comme étant la gastronomie de l'œil.
Ouais.
Alors, je pense qu'on a tous un grand appétit.
C'est pas mal. Alors, quelle est la ville où vous préférez flâner, Thierry Pacaud? Parce que là, on voyage dans le monde entier en plus avec le travail du photographe Frédéric Soltan.
Oui, remarquable travail.
Qui a fait des très beaux clichés absolument partout.
Ça m'a permis justement de parce que quand même on est je pense qu'on est tous un peu quand même franco-français ou du moins j'essayais dans ce livre de désoccidentaliser mon esprit et je n'y arrivais pas pour trouver un poème, pour trouver une destination qui allait coller avec l'entrée que j'étais en train de rédiger et donc du coup les photographies montrent qu'il y a aussi des bouquinistes, des kiosquiers, des dames pipi partout dans le monde. Et donc ça, c'est très, très intéressant.
Et des vendeurs de Tour Eiffel à la Sauvette, par exemple.
Absolument. Maintenant, pour répondre à votre question, la ville où j'aime bien flâner, bah, évidemment, c'est une ville qui est dédiée à ça, puisqu'on y marche beaucoup, ou bien on y circule en bateau. Dans une gondole, c'est Venise, évidemment.
Ouais.
Et Paris, bien sûr, c'est une ville que j'aime beaucoup, que je connais très, très bien. Mais je suis un peu inquiet sur ce qu'elle est en train de devenir.
Pourquoi ?
Bah, parce que je trouve qu'on la bétonne... trop, qu'il n'y a pas assez de respiration. Là, je reprends un mot très très beau de Siegfried Krakauer, qui était un ami de Walter Benjamin, qui disait dans son livre Rue de Berlin et d'ailleurs, il faut qu'une ville, pour être appréciée, eh bien, cultive, ménage des lieux d'improvisation.
Ouais. Et vous parlez de l'alignement aussi, d'ailleurs, aussi,
terrible,
d'un point de vue architectural,
oui,
alignement là, quasiment autoritaire.
Comme si, moi qui ne suis pas trop militaire, je suis presque en train de faire un salut à chaque fois, puis je dis au bâtiment, allez, repos, mettez-vous à côté, mettez-vous à l'écart, créez un frontage. Je mettais
un
petit jardin devant.
Des courbes.
Mais des courbes, bien sûr.
Ouais. Bah ça, c'est Haussmann aussi, non, quand même?
Ah, bah bien sûr. Ah, oui.
C'était vraiment le roi de la ligne.
Il n'avait pas que des bons côtés, ce gaillard.
Aline Richard, qui est le nez plongé dans votre
discours. Oui, c'est absolument magnifique comme travail, mais vraiment, hein, je ne dis pas ça, au hasard. Est-ce qu'il y a une entrée sur l'humeur de la ville? Je m'explique. Moi, je suis parisienne, je vis rue Saint-Denis depuis une vingtaine d'années. Je suis née dans le 14e. et j'ai un certain âge. Et en fait, j'ai l'impression que
c'est votre moment confession, Aline.
Mais l'humeur de ma ville s'aigrit. Est-ce que vous ressentez ça? Est-ce que vous en parlez dans le livre?
Alors, c'est le gris. C'est le gris. C'est votre couleur, c'est ça?
Non, l'humeur de ma ville, oui. C'est gris.
C'est gris.
Les rapports entre les gens deviennent un peu aigres, agressifs.
Très bien.
Oui, c'est pas c'est oui. gris.
Alors, j'en parle
mais
un
lui,
peu.
Lui, il avait.
Mais oui, mais j'en parle dans l'article suite. Charme. Parce que justement, là, j'utilise un livre très important sur la notion de couleur chez Prosper Mérimée, mais parce que c'est un livre où je prends énormément de références un peu chez différents auteurs. Et c'est vrai que l'apparence de la ville, son ambiance, son atmosphère, et tous ces mots sont pas du tout synonymes, évidemment, jouent sur notre humeur. Et inversement, c'est-à-dire que nous, des fois, on est en colère contre la ville qui ne nous plaît pas, et puis à d'autres moments, au contraire, on est sous le charme. Quoi.
Ouais. Alors justement, on parlait du métro Exazy tout à l'heure, ben vous aussi, vous vous livrez. La première fois que vous avez pris le métro, c'était avec votre grand-père maternel, et vous en gardez vraiment le souvenir.
Ah oui, bien sûr. En plus, alors, moi, je prenais le bus auparavant, j'habitais en banlieue, pour aller à la patinoire, mais j'étais un tout petit enfant, ouais. et évidemment, je sonnais, à la bonne station, je ne la ratais pas, j'en avais quatre, et je savais que là, il fallait sonner. Et la première fois que je suis monté dans le métropolitain, je cherchais la sonnette. Je me suis dit, mais comment il va s'arrêter, ce truc? Et puis en fait, il s'arrêtait à toutes les stations, j'étais émerveillé.
Thierry Pacaud, vous inventez même des verbes, vous vous laissez cette liberté, vous avez bien raison. Le verbe aminiser, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire rendre amène, c'est-à-dire rendre aimable, appréciable, un banc, une placette, un parcours.
Ouais.
Donc je vous dis, voilà, c'est un slogan, il faut aménager nos villes. Quoi.
Alors dans l'entrée adresse, là aussi c'est intéressant, une adresse, parce qu'il y a des villes où c'est particulièrement compliqué de trouver la bonne adresse. Hein. Vous parlez du Costa Rica, on pourrait parler du Japon aussi, hein, même difficulté, on se demande comment les chauffeurs de taxi font pour se repérer à Tokyo par exemple.
Hein. Ou le Mozambique, ou la France a ce savoir-faire d'adressage, le mot ne me plaît pas trop, mais bon c'est comme ça.
Ouais.
Et donc on envoie une équipe française qui vient proposer une modalité de numérotation des rues et puis de dénomination des rues. Alors en ce moment, évidemment, avec les transformations du monde politique à l'échelle planétaire, en particulier avec l'effondrement du monde soviétique, il y a eu beaucoup de rues qui ont été débaptisées. Et puis régulièrement, on réclame. Alors, il y a un vrai problème qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est qu'il faut aussi féminiser les noms des rues. Et ça, je trouve ça très, très bien.
Ouais.
Quand on regarde en France, c'est quand même souvent des militaires
hein,
et des conquérants. C'est pas très glorieux, au fait, au fond. Pour nous.
Et c'est en train de se faire, ça? Vous sentez qu'il y a un mouvement en ce sens ou
très
pas?
Très timide, mais je profite de la radio pour le dire.
Ouais.
Je crois qu'il y a une statistique qui est sortie sur Twitter, qui est mon site d'information favori. Il y a une dizaine de jours, je crois que c'est 92% des noms de rues, c'est des noms masculins, 92%.
C'est malheureusement pas étonnant, effectivement.
Ouais, pas étonnant, ouais.
Les gratte-ciels, ça aussi, c'est une entrée du dictionnaire.
Alors,
qui n'ont pas votre faveur, visiblement, Thierry Pacaud.
Non. Je suis, parce que je pense que c'est une construction inurbaine. C'est-à-dire que ça ne crée pas d'urbanité, justement.
Ouais.
Et il y a ce truc bizarre qui est le premier moyen de transport au monde, qui est l'ascenseur, qui fait qu'on ne fait que monter et descendre. C'est ce qu'on appelle une impasse en hauteur. Et ce n'est pas la ville labyrinthique, la ville dans laquelle on peut errer, justement, se promener ou se dépêcher. Enfin, toutes les sont possibles.
Avec la toute-puissance de l'argent aussi. Hein.
Ah bah c'est l'expression même de la siège social d'une firme. Hein.
Absolument.
Si vous voyez à quel point je suis puissant, je ne ferai pas d'autres commentaires.
Voilà, ça s'appelle Dicoru, vocabulaire ordinaire et extraordinaire des lieux urbains, photographie de Frédéric Soltan, et c'est une très bonne idée cadeau pour les fêtes de fin d'année. Ça vient de sortir aux éditions du CNRS et je suis sûr que dans quelques semaines, vous signerez un article dans The Conversation car il y a eu un échange d'adresses justement entre
vous
et Aline Richard tout à l'heure. Et puis on peut lire justement l'article au sujet des conférences scientifiques sur le site qui est en lien sur La Tête au Carré et disnetwork.com pour le problème de dyspraxie. Merci beaucoup à tous les trois. Passez un très bon week-end et de bonnes fêtes de fin d'année.
Merci bien.
Merci.
C'est terminé pour ce club aujourd'hui. Merci à Léo Pringer et Antoine Teboul qui étaient aujourd'hui à la technique. Merci à toute l'équipe qui va prendre un repos fort bien mérité. Et puis un salut amical à notre stagiaire de 3e, Nino Croce, qui a passé la semaine avec nous. C'est Daniel Févé qui sera aux commandes de La Tête au Carré à partir de lundi.